France Inter.
Merci beaucoup. Le prochain flash, ce sera dans une heure à 15h sur France Inter.
Si Kiki ne fait pas partie de l'espèce canine racée, par contre, c'est un spécialiste de la racine carrée.
Actuellement, vous entretenez combien de puces ?
J'ai toujours entre 150 et 200 puces.
Racine carrée de 4.
C'est désagréable, hein ? Même dans mes beaux placards de ma cuisine, j'ai des cafards.
Et pour finir, sachez qu'un mammouth l'a échappé belle en Sibérie.
Dans cette série consacrée au rapport entre les hommes et les animaux, nous ne pouvions pas faire l'impasse sur la chasse. La chasse peut être nourricière, mais pas toujours, source de plaisir pour certains et incompréhensible pour d'autres. La chasse existe depuis à peu près 300 000 ans, nous dit la préhistorienne Marilène Patoumatis, qui expliquera comment nos lointains ancêtres chassaient le mammouth avec peu d'armes et beaucoup d'ingéniosité. La chasse était le passe-temps favori de Louis XIII. Et André Corvol, qui est historienne, nous racontera ces chasses royales. Et puis, nous parlerons des ours, des loups, des sangliers et des trophées, des chasseurs urbains et des chasseurs ruraux, du sang, de la culpabilité. Avec Sergio Dalla Bernardina, il est ethnologue, il s'intéresse à la chasse depuis longtemps. Nous verrons avec lui si on peut imaginer un monde apaisé où le loup dormira avec l'agneau.
Les aventuriers sur France Inter.
Bonjour Sergio Dalla Bernardina.
Bonjour.
Alors vous êtes professeur d'ethnologie à l'Université de Bretagne Occidentale et vous explorez depuis longtemps l'univers de la chasse. Avec quelles questions ?
Disons que dans un premier temps, je cherchais à explorer cet univers dans une perspective historique, tout simplement. Parce que je me disais, qui sont ces chasseurs ? On les connaît très peu, finalement. Et ce sont déjà des autres, ça fait partie de l'altérité. Donc, je cherchais à comprendre comment ça s'est passé au cours du 19e siècle, plutôt dans les Alpes italiennes, après dans les Alpes françaises. Et après, petit à petit, je cherchais à comparer ce que j'ai vu avec aussi ce qui se passe dans les sociétés où il y a la chasse-cueillette. Donc, alors, c'est quelque chose de relativement contestable, si vous voulez, sur le plan scientifique, dans le sens qu'on a du mal à faire ces comparaisons. On trouve à chaque fois qu'il vaudrait mieux se cantonner à des études ponctuelles sur des sociétés précises, sans faire des anachronismes. Évidemment, le chasseur de faisans d'aujourd'hui a peu à voir avec le pygmée, je ne sais pas, ou le bushman, c'est évident. Pourtant, derrière ces différences culturelles très importantes, il y a aussi des continuités, quelque part. Et la première, à mon sens, est le fait que, autrefois, mais aussi aujourd'hui, parce que les chasseurs cueilleurs n'ont pas disparu complètement, comme dans la société contemporaine, on ressent quand même le besoin de se justifier, d'expliquer pourquoi on met à mort l'animal.
L'ombre s'allongeait encore. Elle couvrit bientôt la savane. Le soleil tombait derrière les arbres tel un immense brasier circulaire et le temps fut proche où la vie carnivore allait dominer les solitudes. C'est alors qu'un urus surgit de la forêt. D'où venait-il ? Quelle aventure l'avait isolé ? Les nomades ne se le demandaient point. La passion de la proie les saisissait, car si les chasseurs de leur tribu ne s'attaquaient guère aux troupeaux des grands herbivores, ils guettaient les bêtes solitaires, surtout les faibles et les blessés.
Extrait de La guerre du feu, une fiction préhistorique de Ronnie Aîné, et ça a été publié en 1909. Les chasseurs, enfin les hommes, nos lointains ancêtres, ont commencé à chasser il y a 300 000 ans. Il y a quand même une grosse différence entre ces chasseurs d'hier ou d'avant-hier et ceux d'aujourd'hui.
Oui, il y a des énormes différences, sauf peut-être justement dans le fait que, comme je viens de le rappeler, il y a cette nécessité justement de se justifier. Et donc... il y a un exemple célèbre, plusieurs exemples célèbres que l'on retrouve dans le célèbre texte de Fraser, Le Rameau d'Or, qui n'a jamais été sur le terrain. Donc, on s'est servi des recherches des ethnographes, des explorateurs. Mais il y a une convergence et on voit que les chasseurs, par exemple, de Sibérie, et lorsqu'ils tuent leur animal, ils ne peuvent pas supporter l'idée qu'ils sachent qu'ils en sont les responsables. Donc, ils font toute une série de pratiques pour cacher la chose. Ils approchent de l'ours, lui ferment les yeux et ils lui disent « Qui t'a tué ?» C'est pas nous, hein. Ce sont les Russes. Ce sont, tu regardes la flèche, c'est une flèche. C'est pas nous qui fabriquons des flèches de ce type-là. Et les ostiaques, ils sont pareils. Là, il y a un rituel qui me paraît encore plus intéressant, dans le sens que, une fois tué l'ours, ils remplissent sa peau avec du foin. Dans un premier temps, ils le conspuent. C'est assez violent ce qu'ils font. Et après, il y a comme un déclic, juste après, ils le dressent dans ses pattes arrière et commencent à le célébrer comme si c'était une sorte de dieu protecteur.
À propos de nos lointains ancêtres, je vous propose d'écouter Marilène Patoumatis, préhistorienne, archéozoologue. C'est donc une spécialiste des animaux de la préhistoire. Les hommes préhistoriques étaient des chasseurs, mais les scientifiques se sont longtemps interrogés. Est-ce qu'ils chassaient ou bien est-ce qu'ils mangeaient des bêtes qu'ils trouvaient mortes ?
Ça, c'est une question qui est extrêmement importante parce que est-ce qu'ils étaient des chasseurs ou est-ce que c'était des charognards? C'est-à-dire, est-ce qu'ils prenaient la viande sur les animaux déjà morts? Et en fin de compte, on s'est aperçu après de nombreuses études que c'était des grands chasseurs, comme nos ancêtres directs, les Cro-Magnons, hein, étaient aussi des grands chasseurs qui s'attaquaient à des bêtes très importantes. C'est pas seulement du petit gibier, c'est des grands mammifères.
Des grands mammifères comme le mammouth, par exemple. Alors, comment chassait-on le mammouth ?
Oui, bien sûr, il y avait d'autres gibiers, le bison, etc. Mais le mammouth, ça a toujours intrigué. Parce que comment pouvait-il faire avec les armes qu'ils avaient ? C'est-à-dire que c'est un armement très rudimentaire.
Fait à base de bois et de pierres.
Oui, et de bois, notamment des bois de renne. Des fois, il y a des pointes en ivoire de mammouth, justement. Et donc, là, il faut, évidemment, on a beaucoup questionné ça, ce mammouth. Et là, son énorme toison, hein, ses jarres très épais. Et en dessous, en plus, il a une énorme couche de graisse. Donc, il faut que l'arme puisse traverser tout ça.
Et d'après les travaux des scientifiques, nos lointains ancêtres avaient développé une technique.
On a constaté que les chasses au mammouth, c'était toujours à la fonte des glaces. Ils arrivaient dans les glaces, ils les poussaient et ils tombaient. Et une fois que les mammouths étaient tombés sur le côté, ils ne peuvent pas se relever. Parce que l'eau se met dans ses poils, etc. Et il a trop de poils. Et là, qu'est-ce qui se passe sur le côté? Il dégage tout son abdomen, tout son ventre. Et là, c'est plus facile de le finir, donc avec des épieux. Donc en pénétrant, on faisait presque du corps à corps avec l'animal. Donc on pense que c'est vraiment ça. C'est-à-dire que ces hommes, pour compenser un armement relativement rudimentaire, même si c'est plus sophistiqué avec les Cro-Magnons, eh ben, ils sont des stratèges, ils pensent à l'environnement. Qu'est-ce qui est possible? Qu'est-ce qui est utilisable dans l'environnement?
Est-ce qu'on sait quel rapport entretenaient ces hommes préhistoriques avec les animaux? Est-ce que les animaux qui sont dans les grottes ornées sont en rapport avec la chasse?
Alors ça, c'est très complexe parce qu'on s'aperçoit, et c'est passionnant, qu'en fin de compte, l'animal est omniprésent. Ils doivent tout à l'animal. L'animal leur apporte tout. Pour manger, mais aussi pour se vêtir, pour plein de choses. Et aussi, bien sûr, cet animal va rentrer, point de vue symbolique, on va le retrouver dans les sépultures, hein, dans les tombes, et on va le retrouver, bien sûr, sur les parois ou dans la statuaire. Et ça montre qu'il y a une relation très forte à l'animal. C'est en lien très très vite avec des mythes, des mythologies, une cosmogonie, la façon de voir le monde, où les animaux sont, bien sûr, très important. Est-ce que c'était des divinités? On ne sait pas. Mais c'est pas un art seulement de la chasse.
Alors, il y avait des rituels de chasse. Nos ancêtres cherchaient à effacer le meurtre. C'est un peu ce que vous nous avez expliqué tout à l'heure. Sergio Dalla Bernardina, d'après vous, les chasseurs, certains chasseurs, se sont inventés une histoire qui n'existe pas.
Oui. L'exemple que je peux évoquer, enfin, qui a attiré mon attention, est celui, par exemple, des chasseurs de Vénétie, des préalpes vénitiens, disons, qui sont partis à l'étranger et lorsqu'ils sont revenus, ils n'étaient plus les mêmes. Ils ont changé d'attitude, ils ont commencé à chasser à la manière des Allemands et ils ont commencé à s'habiller aussi à l'allemande avec comme des Tyroliens. Mais le fait curieux, c'est que en quelques années, ils ont commencé à se persuader qu'ils avaient toujours été comme ça finalement et donc que leur passé était le passé de chasseurs très sensible à la question environnementale.
Voilà, il s'appuie sur une pseudo-culture.
Mais c'est une pseudo-culture jusqu'à un certain point, dans le sens qu'il projette dans le passé ceux qu'ils sont devenus.
Alors, il y en a qui ont une véritable culture, qui vivent comme ça depuis longtemps. Ce sont les pygmées. Je vous propose d'écouter comment les pygmées partaient à la chasse il y a plus de 70 ans, parce que l'archive date de 1947.
Quelles sont les principales observations que vous avez faites sur les pygmées? Ce sont des chasseurs, des gens qui ne vivent vraiment que pour la chasse.
Ce sont des chasseurs, et alors le fait d'être chasseur conditionne absolument toute leur existence. Ce sont des gens qui passent leur temps à chasser le gibier se déplace, il faut qu'il se déplace derrière les troupeaux qui fuient. Ce sont par conséquent des nomades, et les départs de chasse le matin se font comme ceci, les enfants partent en chantant. Alors cette tyrolienne, qui est une forme de la musique chantée pygmée tout à fait classique, se rencontre aussi chez les hommes qui partent un peu plus tard que les enfants, pour les rejoindre sur le lieu du rendez-vous de chasse.
Sergio Dalla Bernardina, qu'est-ce que ça vous fait d'entendre ça ?
Ben, ça me fait penser qu'on a quand même le droit parfois de faire la comparaison dont je vous parlais, parce que ça me rappelle quelque chose, une chasse à laquelle j'ai participé en tant qu'observateur en Corse. C'était une chasse au sanglier et elle avait exactement cette même forme. Donc j'ai vu tous les chasseurs qui se sont mis à l'affût en attendant que les rabatteurs repoussent vers eux les sangliers. J'ai vu arriver les sangliers qui ont été tués, et derrière, il y avait toute cette population des rabatteurs, et j'ai vu qu'il y avait des femmes, des vieux, des enfants. Et c'est aussi l'écosystème qui implique que la communauté tout entière participe à cette forme de chasse. Et ça montre les racines éminemment rurales, quand même, de certaines formes de chasse.
Pourquoi chasse-t-on ? C'est ce que je vous propose d'aborder dans un instant, Sergio Dalla Bernardina.
Les Aventuriers sur France Inter.
For asking the thing unto itself, and the unmoved mover, pursued and pursuer, the light in the dark, the wild.
On écoutait Jay Sundy, Stop Caring. Pourquoi chasse-t-on, Sergio Dalla Bernardina, d'après vous? Pour le plaisir? Pour se nourrir?
cette question du plaisir, effectivement, et de la nourriture éventuelle, comme mobile de la chasse, me paraît vraiment fondamentale. Et je pourrais citer une anecdote, un événement que tout le monde connaît en France. On a pas mal parlé de ça. Je pense au président de la Fédération des chasseurs de France. Et à un moment donné, au cours d'un entretien, il a dit à la journaliste, mais moi, je m'en fous de réguler. Et moi, d'abord, c'est le plaisir de chasser. Et ça a créé une tollée générale. Les anti-chasses ont vu là une sorte de lapsus, en se disant, mais voilà, c'est la preuve que les chasseurs, lorsqu'ils parlent de réguler, ils sont en train de tricher. Voilà, la comédie de l'innocence. Oui. Alors que la vérité, c'est ce qui ressort dans ce moment comme ça, un peu chaud.
Ce qu'on appelle les viandards.
Les viandards, voilà. C'est un discours de viandard. Alors que non, moi je pense que ce n'est pas contradictoire, c'est que les mobiles du chasseur sont multiples.
Mais oui.
Et d'un certain point de vue, on pourrait même se dire que ce monsieur Schrein est comme une sorte de chaman, quelque part, qui reçoit les voix des chasseurs qui sont multiples, pluriels, et qui les exprime dans leur complexité. D'ailleurs, on peut saluer aussi ces sortes de lapsus, parce que c'est comme un coming out. Et donc, dans une époque où vraiment le chasseur est censé utiliser la langue de bois pour justifier ses pratiques, le fait que le représentant des chasseurs ait, disons, le courage d'exprimer quelque chose qui saute aux yeux d'un certain point de vue, est quelque chose qui restitue, à la limite, à cette pratique, une partie de sa légitimité, je trouve.
Donc, oui. le plaisir qui existe depuis très longtemps. Sous l'Ancien Régime, tout le monde ne chasse pas de la même façon. Je vous propose d'écouter André Corvol. Elle est historienne, directrice de recherche au CNRS, spécialiste de l'histoire des forêts et de la chasse.
Qui chassaient, en gros, il y a deux catégories. Il y a ceux qui peuvent chasser par tous les temps, n'importe où, avec toutes les armes. Cela désigne la catégorie des guerriers. La chasse est conçue quasiment comme un entraînement au combat qui réclame un œil acéré pour pouvoir mettre en place tout le dispositif pour chasser, ainsi que la collaboration entre les hommes et les meutes. Les nobles chassent également au tir, car ils ont le privilège du port d'armes qui est refusé aux autres catégories sociales.
Un paysan, un artisan, n'a pas le droit de posséder d'armes et n'a pas le droit de chasser.
Si, il a le droit de chasser, mais pas le droit de posséder des armes à feu. Alors par conséquent, il va pouvoir utiliser toutes les formes de piégeage pour piéger tous les animaux qui sont des nuisibles, c'est-à-dire qui détruisent les récoltes, car les loyers sont payés en partie en grains. Il est donc de l'intérêt aussi bien des paysans propriétaires que des nobles propriétaires que les récoltes soient protégées. Donc le peuple peut chasser par piégeage les oiseaux et les rongeurs.
Depuis l'abolition des privilèges, tout le monde a le droit de posséder une arme et la chasse à ceux que l'on appelle les nuisibles n'a pas disparu. Je pense aux sangliers et même aux loups, même si c'est protégé.
Oui, ça me paraît important de rappeler une chose, c'est-à-dire que nous avons eu tendance à réduire la notion de nuisible aux animaux que vous venez d'évoquer, alors que dans le monde rural, toute espèce sauvage, tant bien que mal, est nuisible. Ça peut être le lièvre qui bouffe le raisin là où le raisin pousse très bas, ça peut être les grives qui mangent les olives, ça peut être le sanglier qui mange les figues, les amandes. Enfin, c'était absolument normal que ces animaux-là ne soient pas considérés comme des animaux à défendre, mais plutôt comme des entités négatives qu'il fallait garder à la bonne distance.
Et ça continue.
Oui, parce qu'encore aujourd'hui, évidemment, il y a des espèces qui commencent à pulluler, mais c'est intéressant de voir là aussi, cette ambiguïté dont je vous parlais par rapport à la question du plaisir de chasser, parce que je vous fais un exemple. Tout récemment, je lisais la publicité d'un dispositif pour chasser les corvidés. On peut les chasser même après la fermeture de la chasse. Et donc, ce sont des appelants. Et la manière pour présenter ces appelants est la suivante. On dit, malheureusement, la chasse est en train de finir, mais vous pourrez continuer à chasser pour réguler. Et en plus, ça va être quelque chose de très ludique. Donc, on voit que dans ce sens-là, on voit apparaître cette double motivation, encore une fois. Donc, d'un côté, on a ces vieils arguments de la régulation, qui est légitime. Et de l'autre, on ne nie pas qu'il y a aussi un plaisir lié au fait de continuer de chasser, même pour tuer des corvidés.
Même si on ne porte plus le même regard sur l'animal sauvage.
Là, alors les choses ont complètement changé, c'est une véritable révolution. Et donc l'ours et le loup aujourd'hui sont des animaux sanctifiés, tout simplement.
Idéalisés.
Alors on peut se poser la question, pour combien de temps encore? Parce que vous voyez, en Italie par exemple, il y a un randonneur qui a été tué par un ours. Et les cas d'ours qui avaient attaqué des promeneurs étaient déjà assez fréquents. Donc on s'aperçoit que, ne serait-ce que l'ours, est bien plus dangereux que ce qu'on aurait pu croire dans un premier temps. Et les loups, on verra. Donc on s'aperçoit qu'il y a là quelque chose qui est en train aussi de changer dans les mentalités, d'autant plus qu'il y a le problème du tourisme. Et le touriste peut être d'un côté très, très attiré par la présence des grands prédateurs. On va faire l'Indiana Jones, on va se prendre en photo à côté de l'ours. Donc ça peut attirer, mais ça peut aussi décourager énormément.
Et puisque vous parlez du loup, je vous propose de partir à la chasse au loup au 19e siècle avec notre historienne André Corvol.
Alors le loup, en gros, il a à peu près disparu de nos campagnes avant la Première Guerre mondiale. Et il faut dire que depuis le XVIIe siècle, on y a mis le paquet. Ce qui a été efficace au XIXe siècle, c'est essentiellement le piégeage et les appâts empoisonnés. Et pourtant, on a mis de gros moyens concernant la chasse, car le loup était extrêmement dangereux pour les personnes. En plus, il avait une réputation diabolique. Elle reposait sur le fait de la rage dont il était vecteur. Donc, il était du devoir de l'État d'exterminer le loup. Et on pratiquait des battues au loup. En principe, c'était le seigneur du cru qui devait l'organiser sur ordre de l'intendant, l'équivalent du préfet à l'époque. Et tous les chevaux devaient être mis à la disposition, ainsi que les chiens, pour pouvoir poursuivre le loup. Parce que le loup court très vite, à plus de 50 km/h, et surtout il peut courir pendant des heures et des heures. De ce fait, les nobles, qui étaient quand même les premiers concernés, parce que c'est quand même eux qui avaient les chevaux, n'étaient en général pas enthousiastes à l'idée de répondre à l'ordre qui était donné, parce qu'ils savaient que dans l'opération, il y allait avoir beaucoup de chevaux qui mouraient de crise cardiaque, sans parler des chiens que les loups allaient salement attaquer. Donc, ces battues, finalement, elles aboutissaient à quoi? Eh bien, très souvent, le loup survivait, et le grand effet de la battue, c'est d'avoir déplacé en quelque sorte le fléau. Le loup qui sévissait dans telle et telle commune, eh bien, désormais, il allait sévir 60 km plus loin. C'est tout. Il n'était pas exterminé pour autant.
Alors le loup a disparu et puis le loup est revenu. S'il y avait plus de loups, s'il y avait plus d'ours, il y aurait probablement moins de sangliers.
Sûrement. D'ailleurs, dans certains endroits, on vérifie déjà le phénomène. Il y a eu une réduction de ces nuisibles, mais il n'empêche que ce sont des temps très courts, ceux qui sont pris en considération dans ce genre de raisonnement. On pourrait déjà se demander, et après, lorsqu'il y a tous ces loups qui sont nourris de tous ces sangliers, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il faudra bien régler les loups. Moi, je pense que, plus généralement, le problème, c'est que on pense aux loups et aux ours avec à l'esprit le Canada ou la Sibérie ou les régions où il y a les espaces pour que ces animaux-là puissent vivre sereinement. Alors qu'ici, vous allez justement dans les Alpes, il y a une piste de ski tous les 2 km. Enfin, donc, il y a une route, il y a des établissements touristiques. C'est tellement anthropisé désormais que l'idée de pouvoir mettre là-dedans aussi des animaux de ce type est relativement... Je comprends qu'on puisse la contester, voilà.
C'est un serpent python. C'est un python serpent qui se promène dans la forêt en cherchant à dévorer un beau petit lapin ou bien un nègre fin. Car le serpent python a faim, il a une faim sans fin. Les bêtes et gens sont partis hier, loués par la métro Goldwyn-Mayer, pour figurer dans un film de Tarzan, qui doit rapporter beaucoup d'argent. Mais le serpent piteux est triste et se mord la queue, car il comprend au désespoir qu'il ne mangera pas ce soir. Soudain le bois s'éveille, arrivent des appareils de prise de vue, de prise de son, c'est la scène du grand frisson. On lâche des animaux, des lions et des rhinos, ces roses qui ont l'air féroces comme tout, mais sont doux comme des toutous. Notre serpent du haut d'une branche en l'air voit Monsieur Johnny Weissmuller, qui fait joujou avec un éléphant. Quel joli tableau pour les enfants. Mais tant de cinéma ne remplit pas l'estomac du pauvre piton qui n'aura pas de repas. Quand une idée subtile germe au cœur du reptile, profitant d'une répétition, voici qu'avec précaution, dans l'ombre du crépuscule, il avance, il recule, puis happe un morceau minuscule, un morceau de pellicule qui dépassait d'une boîte en fer. C'était la grande scène du Val d'Enfer, tournée le matin dans une cloche à plongeur pour mieux voir évoluer le nageur. Et comme un spaghetti, le piton, un appétit, avale 200 mètres à présent des aventures de Tarzan. Puis il s'en va joyeux, pensant c'est merveilleux. Je vais dormir maintenant 3 semaines, digérer ce film sans peine. Rampant par-ci par-là, il s'enroule, oh là là, autour d'un cocotier géant. Mais soudain s'écrie géant, géant, j'ai envie de vomir, c'est affreux, tu m'as empoisonné. Cinéma, Tarzan n'est pas pour les pauvres pitons, j'allais mal jusqu'au bout des tétons. Et la moralité du piton dépité, c'est que parfois trop de ciné-parleur peut vous donner mal au cœur, ou que les hommes digèrent, dit-on, mieux que les serpents pitons.
Le serpent piton, vous avez reconnu Charles Trenet.
Les Saventuriers, une émission de Fabienne Chauvière sur France Inter.
Partir au petit matin avec un fusil sur l'épaule, quand ça sent bon, quand il y a encore un peu de rosée, voilà, arpenter les champs. Et puis alors, tout de même, forcer le gibier, le trouver. C'est-à-dire, lorsque j'étais petit, je me rappelle, je courais après les compagnies de perdreaux en Beauce. Je les forçais, j'arrivais à les tirer au 4e ou au 5e vol, et quand j'avais tué un perdreaux, j'arrivais à la maison, fou de joie, en disant « j'ai tué un perdreaux ».
Extrait de l'émission Tribune de Paris, cela date de 1949. Sergio Dalla Bernardina, est-ce qu'on peut vraiment se réjouir de la mort d'un animal?
Alors, justement, je ne sais pas qui est la personne qui parle dans cet entretien, mais...
Ça date de 1949,
oui,
je suis désolée.
Oui, ça me rappelle, justement, ça me fait penser au fait que, dans un passé relativement récent, on pouvait officiellement se réjouir de ça et le dire lorsqu'on était Guy de Maupassant, par exemple. Guy de Maupassant dit clairement le sang du gibier sur sa main, il dit que ça le remplit de... Il a une, comme ça, une joie, une ivresse toute particulière qui lui fait penser à l'homme primitif qui se cache dans la profondeur de son âme. Mais il y a d'autres auteurs qui parlent aussi avec clarté de ce plaisir. Hemingway, par exemple, Karen Blixen, qui ose comparer la joie de la chasse à la joie de la guerre. Donc, ce sont quand même des comparaisons assez fortes. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le fait de reconnaître ouvertement ce plaisir est quelque chose qui est considéré comme obscène. Il n'empêche que, voilà, c'est quoi le plaisir de la chasse? Il y a plusieurs choses à la fois. On peut imaginer déjà le plaisir de revenir avec du gibier qu'on va manger. Et moi, je rappelle toujours l'histoire d'un de mes informateurs, un chasseur, qui me disait « Mais moi, lorsque je tire sur des perdreaux, je les vois déjà dans le four, en casserole, avec des pommes de terre à côté. » Donc, le fait de vouloir insister sur la dimension purement cruelle de l'acte de chasse, nous fait oublier l'essentiel d'un certain point de vue, c'est-à-dire la joie de revenir, montrer à la famille, à son épouse qu'on a ramené quelque chose, l'épouse qui sera reconnaissante, c'est quelque chose d'important.
Comment on va aux champignons ?
Comment on va aux champignons ? On revient, on est fier, on a contribué, c'est quelque chose de très ancien naturellement, aujourd'hui ce n'est plus comme ça. L'épouse aura honte que son mari chasse, disons, malheureusement il chasse, je ne peux pas l'empêcher de le faire. Mais toute l'histoire de la tradition, même de la haute cuisine, prend en considération l'importance du gibier. Oui. Et à mon sens, c'est un mets éminemment festif.
Vous parliez du plaisir de la chasse. Il y en avait un qui éprouvait beaucoup de plaisir à chasser, c'était Louis XIII. André Corvol nous raconte la chasse avec Louis XIII.
Louis XIII a une particularité, c'est le dernier roi à avoir tout chassé. Donc Louis XIII est un chasseur enragé. Pourquoi est-ce un chasseur enragé ? Quand on voit le nombre de jours qu'il passe à la chasse, on se demande d'ailleurs quand il conduisait les reines de l'État. On dirait qu'il avait Richelieu pour faire ça. Louis XIII avait été dressé pour ça. Et j'emploie vraiment le terme dressé. Il n'avait pas 2 ans que son père lui faisait assister à Fontainebleau à des combats entre un ours opposé à plusieurs loups. À l'époque, c'était considéré comme faisant partie de l'éducation d'un enfant et d'un enfant de roi.
Est-ce que vous pouvez nous emmener avec Louis XIII à la chasse ?
Alors, allons chasser avec Louis XIII. Quand Louis XIII part à la chasse, généralement, il chasse à cheval. Mais, jeune homme, il a pratiqué aussi le cours à pied. C'est un exercice que pourraient pratiquer nos joggeurs. Parce que chasser à pied un lièvre, c'est sportif. Mais c'est vrai que à partir d'un certain âge, et à l'époque, on atteint la pleine maturité aux alentours de 25-30 ans, on renonçait à cette chasse qui demandait beaucoup de souffle, et par conséquent, on pratiquait le cours à cheval. Et donc, quand Louis XIII part à la chasse, il y va pour tuer. La bête qui a été sélectionnée pour la chasse a été repérée dès Potrominé. Et donc, on part alors que le soleil n'est pas encore levé. On poursuit l'animal. Toute la journée y était consacrée, mais ça s'arrêtait avant le coucher de soleil pour pouvoir rentrer à la nuit tombée au château, car c'était au château qu'on exposait les viscères des animaux qui avaient été chassés et les meutes étaient à ce moment-là lâchées sur les viscères. C'était leur récompense, c'était leur salaire.
Oui, c'était leur récompense et c'est ce qu'on appelle la curée. Quand vous entendez ces chasses à l'époque de Louis XIII, qu'est-ce que vous en pensez ?
Ben, je pense à la grande distance qu'il y a entre les chasses patriciennes et les chasses plébéiennes. Et donc, ça me fait penser au fait que aujourd'hui, les représentants des chasseurs sont obligés, mais ils ne pourraient pas faire autrement, de parler du chasseur en général. Comme s'il n'y en avait qu'un.
Alors qu'il y a chasseur et chasseur.
Voilà, et il y a des différences. Et à l'époque, c'était des différences statutaires, mais même de conception, liées aussi à la conception de la bonne mort de l'animal. Il y avait derrière ça toute une série d'éléments différenciateurs très prononcés. Et donc, voilà, je pense notamment aux différences, oui.
Sergio Della Bernardina, est-ce qu'on peut parler des trophées ? On en voit de plus en plus, on en voit même dans des musées d'art. Que représente le trophée ?
Alors, le trophée me paraît très intéressant, justement par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure autour de l'ambiguïté des sentiments du chasseur. Parce que d'un côté, évidemment, il représente le moment du triomphe sur l'animal. Et donc une victoire, et donc le moment où on a sévi aussi, il rappelle, il est là pour rappeler le moment où on a réussi à mettre à mort cet animal. Donc c'est un souvenir perpétuel de la scène de mise à mort de la bête. Et de l'autre côté, c'est une tentative de réparation. Ça nous fait penser justement au chasseur-cueilleur dont on parlait. Il y a une première étape dans le comportement qui est celle de cette euphorie liée au plaisir de détruire quelque part une vie. Et de l'autre côté, il y a ce désir qui est lié à une forme de remords presque, ce désir de sanctifier, d'embaumer, de pérenniser, que l'on retrouve. Donc il y a une ambivalence dans le trophée, dans ce sens. qui me paraît constitutif vraiment de l'expérience du chasseur et que l'on retrouve paradoxalement dans le discours et même dans, notamment dans le récit de chasse. Le récit de chasse a cette double fonction. D'un côté, il sert à rappeler à quel point on a été bon, on a gagné vis-à-vis de ce rival, de cet antagoniste.
Et c'est ça, on gagne.
On a gagné, oui, c'est un triomphe. Et donc, on anoblit l'animal aussi pour montrer à quel point a été noble la manière dans laquelle nous avons réussi à le mettre à mort. De l'autre côté, c'est aussi un discours où on cherche à expliquer le contexte qui justifie et qui anoblit, encore une fois, la mise à mort.
Donc c'est comme vouloir leur donner une nouvelle vie, d'après vous ?
Oui. Moi, je pense qu'il y a cet aspect. Et d'ailleurs, lorsqu'on parle avec les taxidermistes, indépendamment du fait que ce soit des animaux qui ont été chassés, ils ont tendance à rappeler, à dire que cet animal, pendant qu'ils sont en train de le reconstituer, ils ressentent une présence. Il y a comme l'idée que voilà, nous sommes quelque part un petit peu animistes sur le bord. Les chasseurs et les taxidermistes prétendent quelque part que quelque chose de l'esprit de l'animal est encore là.
Et puis vous dites aussi les manières de penser la mort animale, la bonne mort animale change et même d'une ère culturelle à l'autre.
Oui. Et moi, j'ai eu l'occasion d'étudier ça dans les vallées vaudoises du Piémont, où, en même temps, on assistait à ce qu'on pourrait appeler une « germanisation » entre guillemets de la chasse, dans le sens que les notables locaux et les citadins avaient commencé à chasser, comme on le fait aujourd'hui, la chasse de sélection avec un fusil à lunettes. On cible un animal précis et on fait en sorte de ne pas troubler l'environnement. C'est un coup, l'animal ne doit pas savoir qu'il va mourir. Et de l'autre côté, il y avait les mordus des chasses traditionnelles qui continuaient de chasser les chamois, pas au chien courant parce que dans cette région ça ne se pratique pas comme ça, mais avec des rabatteurs et avec des juxtaposés en tirant des chevrotines partout. Et pour eux, le fait de pénétrer bruyamment dans la forêt pour faire partir ces animaux était bien plus moral et plus éthique, dans le sens que l'animal n'était pas tué à son insu, disons, mais il était prévenu, donc il avait une possibilité de s'échapper quelque part.
Donc vous pensez vraiment qu'il y a une éthique de la mise à mort ?
Non, je pense que chacun a son éthique. C'est-à-dire, je ne pense pas que le discours méditerranéen, pour ainsi l'appeler, qui est l'idée d'on fait, on pénètre dans la forêt, et parce que la forêt, c'est quand même le lieu. Il y a aussi une tradition chrétienne derrière ça, une sylvophobie qui a été bien mise en avance par certains historiens. L'Église a toujours considéré que ce qui se passait dans la forêt était quand même assez ambigu. Et donc, il y a eu ce désir de remettre en cause ces espaces, donc l'irruption des humains dans la forêt est considéré comme quelque chose de bénéfique et de positif. Mais donc, derrière ça, il y a cette idée d'une pénétration bruyante dans la forêt pour reprendre des espaces. De l'autre côté, il y a une vision plus nordique qui est celle de la protection du silence, de la sérénité qui est liée à ces espaces qui sont plus sacralisés.
Philippe sentait son cœur battre jusque dans ses poignets. C'était la plus belle bête qu'il eût jamais vue. Il la contemplait avidement. Elle avait fui pendant des années et des années sans que personne n'eût jamais pu la saisir. Et maintenant, elle était là, à une trentaine de mètres de lui, livrant sa vie et sa beauté et jusqu'à cette petite écorchure blanche qui dérangeait le poil lisse de son ventre. Elle mangeait paisiblement, sans deviner le regard qui la dépouillait. Elle était prise.
Extrait de La chasse royale de Pierre Moineau, paru chez Gallimard en 1953. Ce texte vous parle beaucoup puisque vous avez travaillé dessus.
Oui, je l'ai trouvé comme un très bel exemple d'anthropomorphisation de l'animal. La manière dans laquelle, justement, l'auteur décrit cette proie est une manière où, déjà, il la féminise. Et après, il y a cette idée du désir. Et c'est aussi un aspect que j'ai retrouvé un peu dans les récits de chasse en général, mais que dans ce cas-là est décrit de façon extrêmement immédiate et très efficace. Donc le chasseur anthropomorphise sa proie, mais on s'aperçoit que par rapport aux travaux actuels sur la question des ontologies, grâce aux merveilleuses contributions de Philippe Descola et des autres anthropologues qui nous ont rappelé à quel point l'Occident est moderne, disons, est naturaliste, dans le sens qu'il pense qu'il y a une frontière qui ne peut pas être dépassée entre l'humain et le non-humain. Ce qui est évidemment très vrai, même si on sait qu'il y a des poches dans le folklore qui nous montrent que finalement, on a toujours été un petit peu animiste. Mais la chose importante, c'est, d'après moi, que lorsque je mène des entretiens, il y a deux animaux qui apparaissent. L'animal qui est décrit par le chasseur, parce qu'il est, on lui demande qu'est-ce que vous chassez, et c'est un discours de zoologiste, si vous voulez, oui. Et les chasseurs ont beaucoup de connaissances, mais dès qu'il commence à raconter une histoire, l'animal devient un interlocuteur, et il est humanisé, il devient l'autre dont je parle et avec lequel je me confronte.
Double diable radio. Les harmoniques résonnent sans moi. Faut pas s'affoler, ce feu est éphémère.
C'était Flavien Berger, Feu Follet.
Les aventuriers sur France Inter.
Ah, la chasse, c'est véritablement un sport. Ça, je peux vous permettre de vous dire que chaque dimanche, lorsque nous sommes sur le terrain et que nous parcourons des dizaines de kilomètres à chasser le perdreau, eh bien, franchir les haies, parcourir des champs de betteraves et autres prairies, c'est véritablement un sport et un sport qu'on peut pratiquer à tous les âges.
Vous seriez le même sans la chasse ?
Je ne pense pas.
Pourquoi chasser ? C'était une archive de 1949. Alors, les chasseurs disaient aimer la nature. Est-ce qu'on peut les croire ?
Alors, moi, ce que je pense par rapport à ça, c'est que il y a une sorte d'injustice dont les chasseurs sont quelque part victimes. Je mets ça un peu entre guillemets, si vous voulez. Et dans le sens que, on pourrait dire, d'un certain point de vue, que ce sont eux qui ont inventé la nature sauvage, à la manière des archéologues. On dit l'archéologue a inventé un site. Et eux sont ceux qui allaient dans la nature sauvage lorsque ce n'était pas à la mode, quoi. Et donc, c'était quelque chose de... Il y avait dans la forêt des gens qui étaient là pour travailler, naturellement. Il y avait quelques excentriques britanniques, des touristes qui avaient découvert la promenade, mais le chasseur, c'est celui qui, normalement, fréquentait ces espaces, et aujourd'hui, on lui demande de partir quelque part. Donc, dans ce sens-là, ça me paraît juste ce qu'ils disent, et je pense que le fait qu'ils prétendent aimer la nature me paraît aussi légitime. Mais, après, de qui parle-t-on ? De quel chasseur parle-t-on ? Oui.
Mais est-ce que vous faites une différence entre le chasseur au sanglier et le chasseur à la glu qui va piéger les oiseaux avec de la glu ?
Ben voilà, c'était par rapport justement à la question des compétences. Parce que lorsque on dit le chasseur est le premier écologiste de France... À quel,
c'est ce qu'ils revendiquent.
Ils revendiquent. Et on leur dit non, c'est pas vrai. Donc, il y a toute une polémique là-dessus. Mais c'est vrai et faux. Dans le sens qu'ils sont des botanistes, parfois. Ils connaissent la météorologie, ils connaissent l'éthologie des différents animaux. Mais qui sont ces gens-là ? Ce sont notamment les piégeurs, les braconniers, et ceux qui vivent de la chasse ou ceux qui étaient considérés justement avec un certain dédain de la part de chasseurs officiels. Les chasseurs officiels, à mon sens, souvent, ont des connaissances bien plus faibles.
Mais est-ce que, d'après vous, le chasseur a changé depuis le XXe siècle ?
Oui, je pense que c'est une question fondamentale, à mon sens. Parce qu'il faut savoir qu'une revue comme le Chasseur français pratique l'écologisation de la chasse depuis, on pourrait dire, je pense, au moins une quarantaine d'années. Donc ça fait 40 ans que le Chasseur français est effectivement... quelqu'un qui est devenu un écologiste. Il ne l'était pas parce qu'à l'époque, ça n'avait pas de sens. Ce n'est pas parce qu'il était quelqu'un qui avait une passion particulière ou un pervers ou quoi que ce soit. C'était quelqu'un qui, logiquement, dans le cadre d'une ruralité, justement, qui ne prévoyait pas la protection des animaux, avait d'autres priorités.
Sergio Dalla Bernardina, je vais vous faire écouter quelque chose et vous me direz ce que vous en pensez.
C'est une orgueilleuse et fière bête. Et périlleuse. Quand il fuit, il fait peu de ruse, mais il court sus aux chiens et aux gens. Même si on le frappe ou si on le blesse, il ne se plaint point ni ne crie, mais quand il vient, court sus aux hommes. Il menace fort en grognant. Mais tant qu'il se peut défendre, il se défend sans se plaindre. Et quand ils ne se peuvent plus défendre, il y a peu de sangliers qui ne se plaignent et crient quand ils sont sur le point de mourir.
C'était la chasse aux sangliers. Est-ce que vous avez reconnu qui était l'auteur de ce texte ? Ça date de 1507 et c'est extrait du livre de chasse de Gaston Phoebus.
Gaston Phoebus, voilà.
Est-ce que les choses ont changé depuis ?
Disons...
Le sanglier est toujours vu comme un nuisible, entre guillemets, mais, encore une fois.
Oui, le sanglier, et en plus, il a eu une très mauvaise réputation, même sur le plan symbolique, c'est-à-dire comme une bête démoniaque, parfois. Aujourd'hui, c'est une bête qui frappe en raison de sa banalité. Et ce qui est... J'avais mené des enquêtes, justement, dans la région de Trente, et là, ce qui
en
est...
En Italie.
En Italie, oui. Et ce qui dérangeait les autochtones par rapport aux sangliers, mais aussi par rapport aux ours d'ailleurs, c'est qu'ils n'étaient plus les mêmes. Et le fait que c'était des animaux qui approchaient des villes, qui avaient des comportements hybrides et quelque part malsains. Alors qu'on aime bien que chacun reste à sa place, les animaux sauvages dans les forêts et les animaux domestiques dans les villes.
Alors il y a des chasses qu'on pratique depuis longtemps, on en parlait tout à l'heure avec Louis XIII qui pratiquait la chasse à cour. La chasse à cour existe toujours et les polémiques sont-elles toujours d'actualité d'après vous ?
Mais elles sont très intéressantes, les polémiques autour de la chasse à cour, parce que ça montre vraiment quels sont les dispositifs de justification de la chasse utilisés par les chasseurs, dans le sens que le dispositif le plus classique consiste à se créer une légitimité qui repose sur le passé, sur la tradition. On a toujours fait comme ça. En plus, regardez, il y a tout un jargon particulier. Oui. Il y a aussi une participation collective qui n'est pas élitiste parce que même la population résidente participe volontiers.
Assiste, viens voir.
Oui, voilà. Donc on met en avant cet interclassisme même de la chasse à cour. C'est la manière qui est utilisée pour justifier la chasse à cour. Dans une autre perspective, on comprend que la chasse à courre puisse scandaliser parce que c'est la chasse qui ressemble le plus au dispositif du bouc émissaire et au lynchage.
Voilà ce qu'on en disait en tout cas en 1961.
La chasse à courre, à mon avis, est un art spécifiquement français, comme je le disais tout à l'heure, et un art où nous laissons vraiment à l'animal toutes ses chances. L'animal a 80% pour lui à l'attaque, il a sa forêt, ses étangs, ses rivières, ses hardes pour se défendre. Si nous prenons, parce que, à force de volonté, à force de connaissance, nous avons dressé des chiens, appelés chiens de change, et qui nous permettent de faire de temps en temps aboyer un de ces magnifiques animaux.
Et voilà comment le chasseur justifie sa chasse.
Oui. C'est une justification qui a toute sa légitimité. Et vous voyez, ce n'est pas très lointain de la manière dans laquelle on justifiait aussi dans les Alpes le fait d'utiliser ces chiens courants parce qu'ils permettent à l'animal, s'il est futé justement, de s'échapper. Et donc on donne une chance supplémentaire. Il n'empêche que l'idée de ce collectif qui converge vers un animal, je dirais innocent pour faire un peu oui. comprendre le sens de cette dynamique et qui converge vers cet animal qui sera tué sous les yeux de tout le monde, rappelle de trop près la dimension justement sacrificielle. Et c'est autour de cet aspect-là que j'ai travaillé plus récemment, autour de l'idée de pouvoir considérer certains aspects de la chasse, mais même la chasse globalement, au-delà de tout ce que nous venons de dire, et ça fait partie évidemment des grandes motivations, mais imaginons pour un instant aussi cet aspect-là, c'est-à-dire que les bienfaits, ce n'est pas non plus pour faire l'apologie de la chasse, tout simplement pour parler d'un aspect important, les bienfaits psychologiques de la chasse consistent ou consistaient dans le fait qu'elle permettait de faire converger la violence collective sur une victime, et donc de produire cet effet d'apaisement qui fait suite justement à un lynchage. Oui, c'est brutal, c'est terrible oui. de dire les choses dans ces termes-là. Et pourtant, je pense que ça peut expliquer aussi toute une série de phénomènes comme justement l'engouement actuel pour les trophées dont je vous parlais. Le trophée est aussi un objet qui rappelle le bouc émissaire quelque part. Le trophée est la victime sur laquelle la violence collective s'est concentrée et qui est là pour nous rappeler aussi les effets bénéfiques du moment où la violence a chuté, s'est réduite, s'est dissipée grâce à cette immolation.
Merci beaucoup Sergio Della Bernardina et je vous propose de terminer avec un extrait de Maupassant, vous en avez parlé tout à l'heure. Amour, ce texte est paru le 7 décembre 1886 dans la revue Gil Blas.
Le jour s'était levé, un jour clair et bleu. Le ciel apparaissait au fond de la vallée et nous songions à repartir quand deux oiseaux, le col droit et les ailes tendues, glissèrent brusquement sur nos têtes. Je tirai. Un d'eux tomba presque à mes pieds. C'était une sarcelle au ventre d'argent. Alors, dans l'espace au-dessus de moi, une voix. Une voix d'oiseau cria. Ce fut une plainte courte, répétée, déchirante. Et la bête, la petite bête épargnée, se mit à tourner dans le bleu du ciel au-dessus de nous en regardant sa compagne morte que je tenais entre mes mains. Il ne s'en allait point. Il tournoyait toujours et pleurait autour de nous. Jamais gémissement de souffrance ne me déchira le cœur comme l'appel désolé, comme le reproche lamentable de ce pauvre animal perdu dans l'espace.
Merci à l'historienne André Corvol et merci à l'ethnologue Sergio Della Bernardina. Alors qu'est-ce qu'on lit, monsieur Bernardina ?
Les ouvrages de Walter Burkert, un ouvrage fondamental qui s'appelle « Homo Nekans ». Et je dois dire aussi, même si ça suscite parfois quelques perplexités chez mes collègues anthropologues, René Girard, « La violence et les sacrés », qui me passent des ouvrages très utiles pour comprendre même les dynamiques contemporaines.
Marilyn Patoumatis est la conseillère scientifique des Saventuriers. Cette émission est réalisée par Jérôme Boulet. Attachée de production, Caroline Prota. La programmation musicale est signée Djoubaka. La semaine prochaine, dans Les Saventuriers, l'intelligence animale. Une émission que vous pouvez déjà écouter en podcast, comme toutes celles de cette série, sur l'appli Radio France.